Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de rentrée 2024 de l'économie expliquée par mon père, en présence donc du DIPER, Charles Gave, et de l'ineffable DAF qui est en train de creuser un trou ou un nouveau tunnel sous la Manche. Car aujourd'hui, nous allons vous parler du Brexit et de l'Angleterre. Alors, bon, j'aimerais bien que le DAF arrête son espèce d'exposition là, pour trouver une nouvelle voie d'entrée vers la Grande-Bretagne. C'est Napoléon, mon chien, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Voilà, mais attends, avant d'abord, je voudrais présenter mes meilleurs voeux aux personnes qui nous suivent. Vous dire que, je ne sais pas si vous l'avez croisé, mais en fin d'année 2023, Charles a commis deux entretiens fondamentaux avec... je dois dire, les deux fois des Québécois, comme quoi nos cousins québécois nous tiennent la dragée haute. Non, donc tout d'abord, un entretien avec Mathieu Bock-Côté, si vous ne l'avez vu sur CNews. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à le retrouver sur YouTube, je ne trouve que sur Dailymotion.
Je crois qu'il a été enlevé de YouTube et il a été mis sur Dailymotion, oui.
Oui, donc je ne sais pas pourquoi, sûrement. Bon, toujours est-il qu'il circule, allez le trouver. Charles Gave est passé, donc c'était le samedi 30 chez ouais. Mathieu Bock-Côté, c'est un excellent entretien. Et aussi chez Stéphane Bureau, le podcast qui est filmé. Qui est aussi d'excellente facture. Donc je ne saurais que trop vous recommander en ce début d'année 2024 avec nos vœux renouvelés de bonne année d'aller voir ces deux épisodes qui sont très instructifs l'un comme l'autre.
Et deux Canadiens français mais qui posent des questions qui étaient différentes. Enfin, ce n'étaient pas les mêmes sujets d'intérêt donc... Ben, ils pensent pas tous la même façon au Québec, hein, c'est bien.
Non, c'était les deux rebondissent très vite et c'était vraiment très enlevé et d'un certain, très certain niveau journalistique.
Oui.
Quant à nous, nous allons débuter. Nous voulions au début faire une émission de questions qui demeure, qui va être peut-être en seconde partie, mais nous sommes tombés de façon séparée sur un article qu'a commis Nicolas Bavrez pour Le Figaro. Et qui nous a un petit peu éberlués, l'un comme l'autre. Alors, il nous a éberlués, un, quant à ses conclusions, et deux, en amont de cela, par le fait qu'il soit écrit par Nicolas Bavrez, qui est à la source et quelqu'un que nous respectons énormément. Alors, Charles, tu vas peut-être réexpliquer qui est Nicolas Bavrez.
Alors, Nicolas Bavrez, c'est un intellectuel français de qualité et assez typique, si j'ose dire, puisqu'il a fait Normal Sup, ce qui est pour moi toujours un titre en principe. Les Normal Sup, ils sont plutôt, ils sont un peu au-dessus des autres, il n'y a pas de doute. Puis il a fait, je crois, l'ENA, il a un doctorat d'histoire, si mes souvenirs sont justes, et il se retrouve maintenant avocat dans une des grandes firmes anglaises, je crois, spécialisée en droit public. Donc il est, c'est un éminent intellectuel. Et il m'a toujours intéressé parce que il a écrit une biographie de Raymond Aron, qui était de très bonne facture. Je crois qu'il a connu Raymond Aron, il a beaucoup travaillé avec lui. Donc pour moi, j'avais toujours un préjugé favorable pour lui, parce que Raymond Aron, c'est quand même celui qui, pendant les années noires de la domination des marxistes en France, s'est opposé avec une belle régularité à toutes les imbécilités qui circulent en France en ce moment. À ce moment-là. Et là, il a publié un article qui m'a sidéré parce que c'était l'article qu'aurait pu commettre, je ne sais pas, un type comme Alain Minc ou quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que c'était...
Ou Attali,
à la fois mal foutu, faux dans les présupposés, faux dans l'analyse. Et c'était l'article d'un amoureux déçu de la technocratie européenne qui expliquait pas que la technocratie européenne n'allait pas bien, d'ailleurs, et qui expliquait que simplement que l'Angleterre était en train de mourir à cause de sa sortie du Brexit. Que donc, si vous voulez, ils avaient commis le péché énorme de retrouver leur indépendance et leur souveraineté, ce qui, pour moi, j'ai été persuadé qu'ils allaient le faire, d'ailleurs. Et il a donné un certain nombre de raisons que je vais essayer d'énumérer juste pour montrer que l'Angleterre ne va pas très bien en ce moment, ça j'en suis tout à fait d'accord, mais elle va beaucoup mieux que nous. Et donc j'aurais préféré qu'il explique pourquoi nous étions dans ce merdier dans lequel on est, plutôt que de s'intéresser aux pays d'à côté qui lui a déjà pris la décision essentielle pour s'en sortir, c'est-à-dire de ne plus être en Europe, quoi.
Alors, nous allons reprendre pour ce faire les données économiques. Tu as tiré un certain nombre de graphiques. Donc, les graphiques vont apparaître. On va essayer de les mettre le plus grand possible, s'il vous plaît, sur l'écran. Pas comme ça, mais vraiment en pleine page. Pour vous démontrer que, si vous voulez, l'article, en l'occurrence, qui était du Figaro, disait en gros, l'Angleterre va très très mal, l'Angleterre ne peut pas s'en sortir, c'est terrible ce qui arrive. Alors,
Elle doit retourner, enfin il faut... Et il disait, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il disait que c'était simplement parce que l'électorat anglais avait été trompé par des démagogues. Moi, personnellement, je ne pense pas que je sois un démagogue, mais je pense sincèrement que tant que la construction européenne de Jacques Delors, qui vient de nous quitter, continue à détruire les nations européennes, il n'y a aucune raison de rester dans cette construction qui est mortifère. C'est-à-dire que c'est à peu près du niveau de l'Union soviétique. Donc je sais bien que le rêve communiste était beau, paraît-il, mais ça fait rien. Et là, le fait que ces gens, quand ils avaient 20 ans, voulaient une Europe politique et tout, ça m'intéresse pas, parce qu'ils ont tué en faisant... Ils ont rien créé, ils ont tué nos pays. Donc, il explique à la fois que l'Angleterre va très mal et que les Anglais ont mal voté. Or, la base de la démocratie, c'est pas de dire quand quelqu'un vote mal, qu'il a mal voté, parce qu'à ce moment-là, on se retrouve avec Sarkozy, que les Français ayant voté, qui ne voulaient pas la Constitution européenne, l'ont eu quand même, parce que j'imagine que...
Parce que Lisbonne, oui.
Parce que les gens intelligents pensent que vous devez l'avoir. Ben, s'il y a une majorité d'idiots dans un pays, ils ont le droit de voter de façon idiote, quoi. Et vous n'avez rien à dire. Hein. Parce qu'en arrivée, vous vous rendez compte que c'est eux qui avaient raison. Alors, donc, ce que je vais faire, si je vais reprendre, la première des choses qu'il disait, c'est que l'économie anglaise est en train de s'écrouler. Que ça va très très mal, et bon. Alors, je montre un simple graphique en premier, là, qui est le graphique des productions industrielles anglaises depuis, allez, le début de l'euro, puisque c'est à partir de là que l'Angleterre est vraiment, que l'Europe est vraiment partie
En quenouille,
puisqu'on perdait nos souverainetés monétaires tous à la fois, mais l'Angleterre n'a pas perdu.
Non, puisqu'elle a conservé la Great Britain Pound, quoi qu'il en soit.
Quoi qu'il en soit. Donc vous voyez que en bleu, c'est la production industrielle française qui, depuis que l'euro existe, a quand même perdu, ce qui ne s'était jamais pas reproduit dans l'histoire de France jusque-là, a quand même perdu quasiment 9% de production industrielle. Ce qui est gigantesque. L'Angleterre, elle n'a pas fait terrible, c'est pas terrible, mais elle est en hausse de 2% depuis... Donc, vous voyez, on se retrouve dans un monde où, bon, l'Angleterre, c'est pas le pied. 2% de croissance en 20 ans, je dirais pas de la production industrielle que c'est un énorme succès.
Oui.
Mais nous, on est à moins 10.
Oui.
Donc
dire que l'Angleterre. Oh mon Dieu, l'Angleterre est sortie du Brexit, c'est horrible pour elle, on va tous mourir, alors que nous, nous sommes en dessous de l'Angleterre en production industrielle, dans ces cas-là, devons-nous penser de l'état de la France?
Et on voit bien que depuis le 2015-2016, qui est la date du sortie de l'Angleterre, vous voyez que la France n'a continué à baisser et que l'Angleterre, elle a plutôt montoté, quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'on a eu le grand trou du Covid.
Voilà.
Ça a continué.
Première chose, l'économie anglaise, je ne sais pas si elle se ratatine. Deuxième chose à laquelle, vous savez, je suis très attaché, c'est la rentabilité des affaires. Vous savez, mon cher entrepreneur, quoi, c'est sans lequel rien ne se passe. La façon dont je regarde ça pour vérifier ce qui se passe dans les pays, c'est que je prends quelque chose qui est publié dans le l'INSEE partout, la marge brute d'autofinancement des entreprises. Alors ça a l'air très scintillant, mais si vous êtes une boulangère, c'est ce qui vous reste une fois que vous avez tout payé, l'électricité, etc. C'est ce qui reste au milieu, à la fin, si vous voulez, quand vous avez payé vos salariés, quand vous avez payé l'électricité, le loyer et tout, ce qui vous reste, quoi. C'est la marge brute d'autofinancement. Donc, regardez, la ligne bleue, c'est la marge d'autofinancement des entreprises, qui, comme je l'ai signalé, notre dossier sur la désindustrialisation de la France, est passée quand même, attendez, je regarde ça d'ici, je crois qu'on est passé de quelque chose comme 25% du PIB, c'est-à-dire que c'est 25%, je sais, à 22,5%, donc on a perdu 2,5 points de PIB, ce qui est monstrueux, de marge des entreprises. Et vous voyez que les entreprises anglaises se baladent à 22,5 depuis 2000, et qu'il ne s'est rien passé de spécial. Ils ont eu une gamelle en 2001-2002. Puis
comme tout le monde, oui.
Puis ils sont remontés. Et aujourd'hui, donc nous, je sais que ça va continuer à baisser, puisque les mêmes causes qui ont produit cette baisse sont toujours là. Et je sais que la marge anglaise va probablement remonter. Donc d'ici quelques temps, la marge brute d'auto, il sera beaucoup plus rentable d'avoir une entreprise en Angleterre que de l'avoir en France. Donc encore une fois, je vois pas d'où vient cette alarme extraordinaire sur la Grande-Bretagne qui nous valide cet article calamiteux. Alors il me dit, ils ont perdu des parts de marché, ils n'ont plus le marché européen, il s'effondre, c'est horrible. Ouais. Alors maintenant on arrive au troisième. Alors là je vous montre en haut, vous avez les exportations. Vous savez, les exportations c'est quelque chose d'assez important, ça montre si le pays est compétitif ou pas. Mm-hmm. Oui, donc est-ce que vous vendez vos trucs à l'étranger ou est-ce que vous ne les vendez pas, quoi. Alors vous regardez, la ligne rouge c'est dans le fond les ventes d'Angleterre, d'origine anglaise. Dans la zone euro, en haut, et en bleu, c'est les ventes de la France. Alors vous voyez que depuis 2000, encore une fois, on est passé de 100 à 195 et 192, donc c'est kiff-kiff. Donc l'Angleterre et la France, à l'intérieur de l'Europe, il n'y a pas eu de gros écarts. Et puis regardez maintenant les exportations vers le reste du monde, qui sont en bas. La France, on est passé brillamment de 100 à 235, pendant que l'Angleterre passait de 100 à 348. Donc pour un pays qui perd de la compétitivité, dont l'économie va s'écrouler, etc., je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils vendent des trucs. Hein. Ils en vendent beaucoup plus que nous. Quoi. Alors ils importent de l'autre côté, mais ça, ce n'est pas la question. Mais je vous montre simplement le côté exportation, parce que c'est un principe de là.
Qu'est-ce qu'ils exportent, les Anglais ?
Énormément de services. Tu sais, la City, par exemple.
Oui, c'est vrai.
Dont d'ailleurs, il nous dit qu'elle va s'écrouler parce que tout le monde va quitter la City.
Depuis le temps qu'on nous dit ça.
Depuis le temps que moi, ça fait...
Venir à Paris.
Ils vont tous venir à Paris. Il suffit que vous alliez une fois à la Bercy et vous comprenez que la City ne viendra jamais à Paris. Parce que, ben voilà, c'est comme ça.
De toute façon, il n'y en a plus de marché. Ils ont fermé Brognard et tout se passe...
Tout se passe de façon électronique. Donc, ouais. Mais la question, ce n'est pas où est le marché. S'il est physiquement quelque part, c'est où il facture. Et donc, par exemple, je me souviens, il y a quelque temps, j'avais expliqué à des gens, vous savez, la City, elle n'en a rien à foutre d'être en dehors de l'Europe, parce que elle va continuer à gérer l'argent des Européens dans les filiales des banques et des sociétés de gestion anglaises à Dublin. Mais les gens m'avaient dit, mais c'est pas possible, ça, ils vont pas le faire. Ben, j'ai dit, et qu'est-ce qui va les empêcher? Elles sont en Europe, les sociétés à Dublin.
Bien sûr.
Donc, ça sera géré à Londres et puis il y aura des accords de facturation à Dublin, puis c'est tout, quoi. Et donc, s'imaginer que la City est quelque chose qui est domicilié quelque part, c'est domicilié dans la liberté, la City.
C'est quand même, il y a souvent ce bourriquet qui tourne, là, de taxer les échanges sur les transactions boursières.
S'il y a en taxe les échanges sur les transactions boursières en France, elles iront toutes se passer à Hong Kong, à Singapour, à Kuala Lumpur, j'en sais rien, mais cette idée qu'on peut taxer...
Parce que c'est une grande idée de LFI, temps après temps, de dire, voilà, on va taxer le grand capital, on va faire une taxe sur les transactions boursières.
Oui, c'est comme ça, ils rendront, encore une fois, toute taxe sur le capital, sur l'épargne, comme j'ai essayé de le montrer 20 fois, si on taxe le capital, si on taxe l'épargne, on taxe le futur. C'est-à-dire que la quantité d'épargne baisse, et donc l'emploi baisse, et la pauvreté augmente. Donc, encore une fois, ce qu'il faut, c'est taxer le travail et les ventes. Et laisser bien les gens épargner pour que la quantité de capital augmente. Mais ça, c'est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. Donc, surtout que le problème qu'on a en France, c'est qu'on a assez peu de capital qui appartiennent à des grandes institutions d'épargne. Dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas ce truc du grand capital. Si vous voulez. Quand on pense grand capital en France, on pense à Arnaud.
Oui.
Et on dit, ah, il est très méchant. Je ne sais pas s'il est très méchant, je m'en fous d'ailleurs. Mais pas plus qu'un autre, j'imagine. Mais quand on pense grand capital en Angleterre, on pense... le fonds de pension qui est un de nos clients d'ailleurs des chemins de fer britanniques ou là il y a vraiment il y a vraiment beaucoup de pognon là,
oui.
Et beaucoup plus qu'on n'en aura jamais Bernard. Donc il faudrait peut-être cesser de personnaliser le capital. S'il a une économie bien gérée, son épargne est bien gérée, elle appartient au pays.
Mais ça, c'est parce qu'en France, on a cette vision marxiste du
ils
capital.
Ils l'ont pris à quelqu'un. Bah, ça m'est égal, mais si on donne plus d'argent aux pensionnés, s'ils en gagnent plus des chemins de fer britanniques, je ne pense pas qu'ils soient malheureux et que ce soit d'être de droite. Enfin bref. Donc ça, c'est simplement, encore une fois, une espèce de crétinerie du logos français. Donc, vous voyez que l'Angleterre n'est pas en train de mourir dans le domaine de l'exportation. Alors maintenant, on va regarder un autre endroit où elle n'est pas. Alors, ils disent le chômage est en train de monter, oui. C'est épouvantable. Les pauvres Anglais, ils sont tous en train de mourir dans la rue.
Horrible, comme des mouches.
Comme des mouches.
Londres, horrible.
Moi, je vous assure, je vais souvent à Londres. D'abord, c'est propre, et ensuite, on a pas l'impression qu'ils sont tous en train de vivre dans la misère. Mais enfin, peut-être est-ce vrai au fin fond des Midlands, j'en sais rien. Alors là, vous voyez, je prends simplement le taux de chômage, parce qu'après tout, c'est important. Et je mets les deux taux de chômage, c'est pas un taux de chômage à 6,7%, c'est que je les ai mis à 100, le taux de chômage, en 2000, le début de l'euro. Vous voyez que le taux de chômage français est très écrasé, c'est-à-dire qu'on sent que c'est une donnée qui est bien manipulée. Quand il doit monter, il monte, comme de 2008 à 2012 pendant les crises mondiales et européennes. Mais vous voyez que le chômage britannique, lui, il pète à la hausse. C'est-à-dire que c'est un pays qui est libre, les entreprises, elles peuvent pas survivre.
Il y a beaucoup plus de fluctuations.
De volatilité
dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire à la hausse ou à la baisse.
Ben évidemment, parce qu'à partir du moment où tu as empêché les gens de virer les gens, etc., ils les rembauchent plus non plus.
Oui.
Et l'entreprise a moins de rentabilité, puisqu'elle était obligée de garder des gens qu'elle n'avait pas besoin de garder. Donc ça veut dire que les Anglais, ils virent comme des fous, ils embauchent comme des fous, et puis ils virent comme des fous, et puis ils embauchent comme des fous. Pendant que nous, il ne se passe rien.
On n'a pas le même droit du travail. Donc, le choix de prendre
encore
un salarié
fois,
en France.
Ça, c'est la ligne
engage.
Maginot, une fois encore.
Voilà.
Encore la ligne Maginot. Alors là, il est vrai que les taux de chômage, puisque l'Europe est en train de rentrer en récession, est en train de monter en Grande-Bretagne, on le voit bien. Il monte moins en France. Mais sur le résultat de ces politiques de défense, fait qu'aujourd'hui, c'est depuis 20 ans, maintenant 24 ans, vous voyez que le taux de chômage a plus baissé sur 23 ans en Angleterre qu'il n'a baissé en France. Ils ont baissé dans les deux. Donc encore une fois, vous dites, mais de quoi parle-t-il ? Il nous prend vraiment pour des tanches. Autre chose, ce sera l'avant-dernier, après avoir fait des tirades extraordinaires sur le fait que le gouvernement britannique avait été incapable de régler le problème de l'immigration, ce qui m'a doucement fait rigoler, parce que j'ai pas l'impression que le nôtre était particulièrement couronné de succès. Donc, soit on n'en parle pas, soit on ne... Et donc, vous voyez ici, en fait, il fait un effet sur la dette anglaise qui était insoutenable, les taux d'intérêt, je sais pas quoi. Bon, la dette anglaise est élevée, je dis pas que ça va bien, elle est à 100% du PIB, ce qui est pas une bonne idée. Parce que il faut dire que Johnson, dans les dernières années, ça a été une de mes grandes déceptions, parce que je pensais que c'était un type sérieux, un peu farfelu, mais sérieux. Et en fait, c'était juste un bouffon.
Juste un farfelu.
C'était juste un bouffon. Mais enfin, la France, c'est quand même 12% au-dessus.
Et encore, si on doit commencer à regarder les dettes européennes, l'Italie, elle est à quoi, 134 là ?
134, oui. Mais en plus, je pense que dans la dette anglaise, il doit y avoir... je suis pas certain de ce que je vais dire, mais nous, on n'a pas du tout... On n'a aucun fonds de capitalisation pour les retraites des fonctionnaires.
Des fonctionnaires.
Alors que je suis bien certain que les Anglais devront l'avoir.
Oui, elles sont hors bilan chez nous, non ?
Oui, elles sont hors bilan. Non, elles sont...
Il n'y en a pas ?
Il n'y en a pas. On n'a jamais rien fait.
Ah, donc il se retrouve nu comme des vers si...
Si l'État...
Mais comment ça se fait que ça ne soit pas prévu ?
Parce que c'est payé par l'État, par le budget de l'État. C'est-à-dire que quand un type prend sa retraite, c'est le budget de l'État qui le prend en compte.
Oui, mais il n'y a pas une réserve...
Non, il n'y a rien du tout qu'une réserve. Non, je crois d'ailleurs...
Mais une petite case, quoi.
Il n'y a pas donc Picsou qui aurait mis des sous de côté.
Non, mais c'est une retraite. Tu pourrais dire c'est le fonds de retraite des fonctionnaires, et elle est à part, et gérée à part. Je ne sais pas, comme pour la Banque de France.
Les fonctionnaires comme la Banque de France, ou les gens qui savent comme la Banque de France...
Eux, je sais qu'ils ont leur retraite qui est capitalisée et qui est gérée par eux.
Par eux.
Pas
folle la guêpe. D'ailleurs, quand j'étais à la Banque de France, il m'a fait rigoler il y a une dizaine d'années. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils pensaient des obligations françaises. Ils disaient, mais...
Pour les autres, pas pour nous, enfin, Charles. Mais enfin, mon cher ami, vous n'y pensez pas.
Nous, on ne va pas acheter ces saloperies-là, mais enfin... Ça ça m'a fait poiler. Bon, enfin, c'était donc la dette française, il n'y a pas de quoi s'en...
On the continent,
voilà. Donc vraiment, c'est un truc. Et alors, la dernière des choses, c'est que bien entendu, comme j'entends depuis la nuit des temps, la livre va s'écrouler parce que l'euro, c'est quand même une bien meilleure monnaie que la livre, comme chacun le sait. Bon, alors là, on met ça, donc, 100 au moment de la crise anglaise. Tu sais, quand ils ont sorti de la Frexit, quand ils ont voté pour on est à 100.
Bon, le Brexit.
J'aimerais, mais enfin, c'est pas. Donc, vous voyez, on était à 100, on est tombé à 92, 50, et donc, vous voyez, tout le monde disait, c'est la fin du monde, la livre va aller à zéro. Bon, ben, si vous avez acheté à peu près au moment des élections à 100, bah, depuis, vous faites 6% de plus compte tenu des intérêts que le fait l'euro. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est de ces trucs calamiteux, monsieur Bavrès tire la conclusion qu'il va y avoir que les socialistes vont revenir au pouvoir. Ce qui n'est pas du tout exclu, c'est qu'un homme comme Farage, qui était à l'origine du Brexit, hein, c'était celui qui est vraiment, sans lui, il n'y aurait pas eu de Brexit. Mais il est en train peut-être de songer à monter un troisième parti. Alors, s'il y a un troisième parti où il y a les vrais partisans du Brexit qui doivent faire 35 ou 40% des votes encore, facile, les conservateurs qui ont montré leur incompétence depuis maintenant très longtemps et les travaillistes qui sont fous comme des lapins, je suis bien certain que personne ne peut faire dans un truc où c'est le scrutin uninominal majoritaire à un tour. Personne ne sait qui sort de ce truc où il y aurait trois candidats. Et celui qui fait 34 et les deux autres font 33-33, ben il est élu. Et s'il fait 34 partout, vous avez une chère, un truc où il n'y aura que des partisans de Farage. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que faire une hypothèse aujourd'hui, hein, plus d'un an avant, sur quel va être les résultats des élections, sans savoir qui même va y être, alors que c'est, et en pensant que ce sera comme toujours les conservateurs et les travaillistes, ça me paraît très léger comme raisonnement.
Sachant en plus qu'en ce moment, si on regarde de notre côté du bras de la Manche avec ce qui se passe, là on a en ce moment, à l'heure où je parle, une révolte qui commence à gronder du côté de l'Allemagne. Ouais. Et je t'ai toujours entendu dire que la vraie question, c'était pas quand les Français étaient dans la rue, c'était quand les Allemands y étaient.
Oui, parce que
là, c'est donc ça fait un moment que tu dis qu'en Allemagne,
ça va pas du tout
parce qu'on a vu que avec le prix de l'énergie, justement, voilà. Il se retrouvait marron. Et là, il y a véritablement une révolte des agriculteurs parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux.
Tu as tout à fait raison de manifester, mais surtout, ce qu'on voit, c'est que M. Barrès nous explique qu'il y a eu une espèce de rupture. Il y avait, avant le Brexit, tout allait bien. Après le Brexit, tout allait mal. Mais tu regardes mes graphiques, tu la vois nulle part, cette rupture. Il ne s'est rien passé de spécial. Donc, il me fait un truc apocalyptique sur le Brexit, qui ne tient pas lui. Et si l'Europe s'était tellement bien, pourquoi y a-t-il ces émeutes en Allemagne, ces révoltes, etc. Donc, la France ne va pas bien, l'Italie ne va pas bien, l'Allemagne ne va pas bien. Et il vient me parler de l'Angleterre qui est en train d'essayer de s'en sortir. Et ce qui s'est passé en Angleterre, puisque je connais bien les Angleterres, j'ai des amis dans la politique en Angleterre et tout, ce qui s'est passé, c'est que aussi il y a tous les techno-anglais qui étaient tous favorables à l'Europe, tout fait pour empêcher de sortir. Par exemple, l'Angleterre, à ce jour, n'a toujours pas réussi à sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle n'a toujours pas réussi parce qu'il y a des tels... Il y a la Cour suprême qui n'existe pas, qui est une saloperie qui a été inventée par...
Ah oui, c'est le sparadrap du capitaine Haddock, ils arrivent
pas. Ils arrivent pas, exactement.
Ils sont là, ça colle, ils reviennent dans une pièce, ils y arrivent pas.
Ils arrivent pas. C'est le sparadrap du capitaine Haddock. Et donc ce débat, sortir de l'Europe, c'est la sortie de l'Europe. La sortie d'Europe a été sabotée par tous les hauts fonctionnaires britanniques, comme quelqu'un qui voudrait le faire en France le ferait. Donc on peut pas faire, ce que je tire comme de leçon, c'est qu'on peut pas imaginer qu'on puisse sortir la France de ce merdier dans lequel on est, si on ne remplace pas littéralement, si on ne met pas toute la fonction publique en France à la retraite. Ou alors aux affaires sociales à Tulle, quoi. J'en sais rien, j'ai rien contre Tulle d'ailleurs, mais... mais tu vois ce que je veux dire, un endroit où il n'y a plus rien de se passe, quoi. Et donc j'ai été stupéfait par cet article parce que pour moi, un homme qui avait été formé par Raymond Aron devait partir des faits pour essayer de comprendre le monde. Or là, ils partent Il part exactement comme un communiste dans les années 50.
Ou un avocat.
Ou un avocat. Il part de ce qu'il veut démontrer. Mmh. Et il assène des vérités qui n'en sont pas.
Sans chiffres.
L'Angleterre va très mal. Enfin, genre, si tu dis à un Français n'importe où, l'Angleterre va très mal. Ils sont tous d'accord. L'Angleterre va toujours très mal depuis très longtemps, depuis qu'ils ont battu.
C'est l'histoire. On est toujours contre l'Angleterre quand on joue au rugby. Ça me paraît.
C'est ce que dit mon fils. Il dit tout joueur de rugby, tout supporter de rugby a deux équipes qui supportent, la sienne, bien entendu, et celle qui joue contre l'Angleterre.
N'importe qui joue contre l'Angleterre. L'Irlande, on est pour. L'Écosse, on est pour.
Et on est très content quand ils se font battre. Il y a aussi, donc si vous dites à France et l'Angleterre va mal. Vous allez être immédiatement très populaire. Mais je trouve que de la part d'un élève de Raymond Aron, c'est d'une légèreté de partir de ses a priori préférentiels. Il a été partisan de l'euro, il a été partisan de la souveraineté européenne, il a été partisan de tous les trucs dont on voit aujourd'hui que ça ne marche pas.
Mais ce qu'il y a de très bizarre, alors en revanche, c'est que moi je me souviens d'une longue conférence de Nicolas Bavrès à l'époque, donnée pour l'Institut Turgot, on doit être en 94, oui. 96, je crois qu'on peut encore la trouver sur Internet, et qui expliquait très bien d'ailleurs pourquoi l'euro n'allait pas fonctionner non plus, comme oui. toi à l'époque. Oui. Donc c'est quand même très étrange, alors que structurellement, c'était quelqu'un qui justement remettait en cause le fait que nos souverainetés allaient être mises à mal. Et donc,
il était, à mon avis, plus proche de Seguin que de Delors.
Que de, voilà. Et c'est, et que, donc, c'est très, c'est très désarçonnant.
Est-ce qu'il a viré sa cutie ?
Non, mais peut-être qu'il le pense. Mais en tous les cas, ça n'est pas un bon article dans la mesure où les faits, on ne peut pas. Il n'y a pas plusieurs vérités. La vérité est, or, si on prend les données telles qu'on vient de les sortir, qui sont des données de l'OCDE, encore une fois,
on ne dit pas que l'Angleterre va bien.
On ne dit pas que l'Angleterre va bien, mais on dit que la France va beaucoup plus mal. Donc, dans ces cas-là, mettons les choses à plat. On ne peut pas dire l'Angleterre va très mal sans dire alors, dans ces cas-là, tous les matins, comme nous le faisons, la France va très très mal. Et l'Italie aussi, dans ces cas-là.
Et l'Allemagne maintenant.
Donc,
on ne peut pas dire que c'est la faute du Brexit. Parce que, bon, eux, ils sont sortis, mais nous, on y est restés.
Et on va beaucoup plus mal. Toutes les données qu'on a données comparatives. Nous sommes ouverts au débat, mais en tout cas, force est de constater...
On a été douloureusement surpris, voilà.
On n'a pas été déçus en bien.
On n'a pas été déçus en bien.
On n'a pas du tout été déçus en bien.
Voilà. Alors qu'on s'attend... En d'autres termes, je m'attendais à mieux. Voilà.
Voilà. Oui, voilà.
Mauvaise copie,
doit revoir sa copie, et nous fûmes aussi déçus de trouver ce papier dans les tribunes du Figaro, qui, nous pensions, était un journal qui tenait à avoir une certaine tenue intellectuelle et analytique. Parfois il y a des ratés, c'est pas grave, mais ça compte dans la moyenne générale.
Oui, voilà. Et j'ai reçu des coups de téléphone d'amis qui m'ont dit « Tu as lu cet article de l'Angleterre, qu'est-ce que tu en penses ?» et tout. Ben, du coup, c'est ça qui m'a fait sauter en l'air. J'ai été de lire.
Oui, mais alors ce qui est drôle, c'est que moi aussi, je te l'ai envoyé. Tu m'as dit « Oui, j'ai vu !» Comme quoi...
Mais c'était quelqu'un d'autre qui m'avait appelé.
Oui, mais c'est Nicolas Bavrès quand même. C'est ça.
Et pour moi, c'était un peu une espèce de successeur de Raymond Aron, quoi. C'était quelqu'un à lequel je tirais mon chapeau, tu vois. C'était. Et puis là, je me suis dit, attends.
Mais d'ailleurs, je crois qu'il écrivait avant chez Valeurs Actuelles. Oui. Aussi. Enfin bon, whatever. Mais.
Voilà, on a été un peu déçus, voilà, c'est tout.
On a été déçus. Écoute, je vais prendre un petit peu des questions pour ouvrir sur le débat.
Oui.
Justement, puisqu'on parlait du sort de la France qui ma foi n'est pas très glorieux si on compare à l'Angleterre, puisque on est en dessous pour beaucoup de chiffres. Tu as Yves Bourdillon, tu sais, qui est un journaliste, qui te demandait concrètement comment tu ferais toi pour sortir du déficit public qui alimente l'inflation et qui donc nous pourrit l'avenir de génération en génération. Mmh. Et comment tu ferais à l'horizon d'une législature? Si on te donnait 5 ans, comment tu ferais concrètement pour sortir du déficit public ?
Mais d'abord, la première des choses que je ferais, c'est comme une chatte, il ne retrouve pas ses petits dans ce truc-là. Je demanderais un audit des dépenses de l'État, qui serait. Les gens confieraient le travail.
La responsabilité
à Charles Pratt, parce que que tu connais bien toi aussi. Et je me dirais, au moins lui, il a sans doute. Il ira au. Tu vois ce que je veux
au
dire ? On a bien vu le truc de Moscovici, t'as vu le truc qui vient de sortir.
C'est incroyable.
Il y a un truc qui sort qui est tout à fait extraordinaire qui doit être portée là. Et lui, il trouve que non, parce que...
Non, parce que ça va mal s'insérer dans le temps parlementaire. Tu dis, mais ta mission, c'est pas de t'insérer dans le temps parlementaire, Jean-Pierre. C'est de délivrer un rapport quand il est prêt. Donc on t'appellera quand on voudra que ça s'insère dans un temps parlementaire.
Non, mais d'abord, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc,
c'est pas la collection Tony Blair.
Je reviens à ce que j'ai dit sur l'implémentation du Brexit par les élites technocratiques anglaises. Si je demande un audit à l'inspection des finances, j'aurai un truc auquel je comprendrai que dalle.
Oui.
Ils m'expliqueront, ils vont m'enfumer, je le sais déjà.
Oui, puis ça va être caché dans les notes de bas de page, ils vont mettre des trucs en retenue sur les bilans, t'arriveras pas à les lire.
Voilà, etc. Et puis ils me feront des trucs qui sont incompréhensibles. Donc je veux un type qui me dise...
Globalement, on sait très bien qu'il faut couper dans les dépenses publiques de façon incroyable.
Mais dans les transferts sociaux.
Dans les transferts sociaux.
Parce que les dépenses publiques, l'État, il est à l'os. Dans ses missions régaliennes, il est à l'os.
L'État est à l'os dans ses missions régaliennes, on le sait, sur les hôpitaux, ainsi de suite. Mais on sait très bien aussi que le problème, c'est les collectivités territoriales et le millefeuille,
administratif.
Donc là, il y a énormément de coupes à faire. Toutes les histoires de comités, de budget à la région. Ensuite, il y a des ministères afuera.
Il faut faire
aussi.
Comme Yéli, il faut avoir une tronçonneuse.
Parce que les sous-ministères à la culture, de culture, de l'éducation...
Donc la première chose que je... Oui, je fais ça. Première chose, je fais ça. La deuxième, je fais passer un amendement à la Constitution le plus rapidement possible pour avoir un référendum d'initiative populaire dans lequel je ferai passer qu'il ne peut pas y avoir une augmentation du poids de l'État dans l'économie sans un référendum qui l'autorise. Et qu'à partir de maintenant...
Et puis, il faut voter des budgets et les tenir aussi. Il faut arrêter de dépenser plus que ce qu'on lève.
Troisièmement, le salaire des députés, des sénateurs, etc. est supprimé jusqu'à ce qu'on soit revenu à l'équilibre.
Non, mais attends, déjà, pardon, mais on peut supprimer pas mal de postes de députés, de sénateurs.
Il est supprimé, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que si tu cesses de payer les gars...
Ah oui, quand ils tiennent pas des budgets à l'équilibre...
Tu ne tiennes pas les budgets à l'équilibre, tout budget qui est dépensé, à ce moment-là, entraîne immédiatement la suspension des salaires des gars qui devaient le... Et tu vas voir à quel moment, comment ils vont devenir rapides. Pour l'instant, c'est de l'argent qui ne coûte rien, comme disait
François Hollande,
parce que c'est l'État, c'était Hollande. Donc la première des choses, mais surtout la chose essentielle, c'est ramener la dépense au niveau où elle a lieu. S'il y a une dépense, il faut que ce soit voté localement. Si l'argent est dépensé localement, il faut que ce soit voté localement. Parce que c'est ce que disait Milton Friedman. Tu sais, il y a quatre façons de dépenser de l'argent, je l'ai raconté. Hop. Il y a quatre façons de dépenser de l'argent. Vous le dépensez pour vous, vous l'avez gagné. Vous le dépensez pour vous, vous le dépensez bien. J'ai gagné de l'argent, je le dépense. Par exemple, je fais un cadeau à ta mère pour son anniversaire. C'est toujours ce que je dis. Je lui offre une Harley Davidson. Elle est contente, mais enfin, moyennement, quoi. C'est pas vraiment ce qu'elle attendait, quoi. Donc, c'est pas terrible. Puis ensuite, si tu veux, il y a quelqu'un qui me fait un cadeau, comme par exemple mon grand-père qui me meurt en laissant des sommes énormes. C'est pas vrai, hein, j'avais pas un rond, mais l'héritage. Bon, c'est bien dépensé, mais peut-être pas, quoi. J'en sais rien, il va peut-être la dépenser aux courses avec des femmes. Et le quatrième, c'est si quelqu'un reçoit de l'argent d'une personne qui l'a piqué avec quelqu'un d'autre. Alors ça marche jamais. Donc il faut cesser ces transferts. C'est-à-dire ce que j'ai toujours dit, ces transferts, c'est des subventions, et la subvention, ça déshonore celui qui la donne, et ça déshonore celui qui la reçoit. Donc la première des choses, c'est je suis sûr que les dépenses de l'État sont régis d'après la loi de Pareto. Mmh. Il y a 80% des dépenses qui doivent être faites sur 20% des positions. Et c'est là où est la corruption.
Il y a ça, et il y a aussi le côté, le bras de l'État. C'est-à-dire que c'est toujours ceux qui sont le plus près du pouvoir qui touchent le plus.
Et oui, le bras droit est beaucoup plus long que le bras gauche.
Et puis
ensuite, il faut maintenant que tous les impôts, toutes les prestations, tout ça, soient votés par le peuple. Puisqu'on a bien vu que la représentation nationale était achetée, puisqu'elle a voté des budgets en déficit depuis 50 ans maintenant. Donc il faudrait prendre quelques mesures, mais le plus simple, il y en a quelques-unes comme ça qui sont assez simples, c'est la non-éligibilité des fonctionnaires, par exemple.
Oui.
Mais dans l'état de la dette actuelle... La seule façon de s'en sortir, c'est que le taux de croissance de la France devienne supérieur au taux d'intérêt. sur la dette, ce qu'on n'a pas fait depuis des années.
74,
donc, est-ce qu'on ne peut pas faire si on reste dans le carcan de l'Europe actuelle ? Il y a maintenant, l'Europe est devenue une machine à empêcher de croître. Au départ, on a gagné parce que les marchés s'ouvraient. Et maintenant, on a tellement de bidouilles dans tous les sens qu'on ne peut plus rien faire.
Est-ce que tu as vu cette semaine, tu as dû le voir, c'était il y a 2 jours, je crois que c'était dans l'Iowa, Trump qui se moquait de Macron.
J'ai vu ça, c'était horrible.
En disant, voilà, donc j'ai Monsieur Macron, nice guy, qui m'a dit, on va taxer les produits qui viennent des États-Unis.
Les GAFA, il a dit.
Les GAFA à hauteur de 25%. Il a dit, mais non, tu ne vas pas faire ça, sinon moi, je taxe les produits.
Non, il a dit, bah, tu peux.
Tu peux, oui,
fais ça.
Vas-y, fais ça. Mais moi, tous les pays français qui viendront aux États-Unis, je les taxerai comme le cognac, je les taxerai de 100%.
Ouais.
Ah, mais non, tu ne peux pas faire ça. Et finalement, bah, ils ne l'ont pas fait. C'est toujours quand les gens vous disent, et c'est toujours ce que tu dis quand les gens disent, on va faire des mesures protectionnistes. Je dis, mais allez-y les gars, faites des mesures protectionnistes. Mais qu'est-ce qui empêche le pays d'à côté, et quand c'est les États-Unis, de faire aussi des mesures protectionnistes sur les pays d'import?
Et à ce moment-là, s'il fait ça, le cours de bourse de Bernard Arnault
s'écroule. De LVMH s'écroule.
Et
L'Oréal sûrement aussi, enfin pas mal de produits. Bon,
donc, encore une fois, on a signé à cause de l'Europe des traités commerciaux imbéciles où la quasi-totalité des entreprises américaines qui opèrent en Europe, leurs profits apparaissent de façon stupéfiante en Irlande, où ils sont taxés à 1 ou 2% à la place d'être taxés chez nous.
Je crois que Starbucks, c'est ça aussi.
Microsoft, tout remonte. Donc, bon, on a signé ça, donc on est obligé de respecter ça, sauf à sortir de l'Europe. Donc encore une fois, tant qu'on n'aura pas repris notre liberté, notre souveraineté, pour revenir à ce que j'ai déjà dit dans le passé, ben, je crois que on va doucement mais sûrement vers une perte de souveraineté telle que le fiscal, politique, etc., que la France va cesser d'exister. Je crois que c'est ça. Donc la réponse à cette question, c'est il n'y a pas de retour à la croissance sans retour à la souveraineté.
Et alors c'est assez intéressant que tu parles de ça, parce que je vais ouvrir sur... c'est des questions qui reviennent aussi, mais qui sont quand même intéressantes. C'est-à-dire quand les gens parlent aujourd'hui de cette décroissance quelque part molle qu'on aurait dans nos pays... C'est perdre de vue, quelque part, que pendant ce temps-là, il y a toute une partie du monde...
Ah, mais de l'autre côté, ça boum, là, je t'assure.
Il y a tout un axe qui va, surtout avec l'Inde, qui est en train de se développer.
On va en parler ici. Mais là, moi, je viens de passer une grande semaine au Maroc. Bon, vous savez que j'ai passé du temps en Afrique du Nord quand j'étais jeune, etc. J'ai été honnêtement stupéfait par ce que j'ai vu au Maroc. C'est un pays... Les villes sont nickel, vous pourriez manger par terre. Les voitures sont magnifiques.
À Paris, il vaut mieux pas essayer de manger par terre. Hein, et oui, pourtant, on est dans le 16e.
Tu peux manger directement par terre, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour manger par terre.
Là, tu places Victor Hugo, mais c'est dégueulasse. Hein.
On a un feu
qui est là depuis 3 ans, qui doit être réparé. Mais 3 ans, il y a les câbles apparents, machin. Chaque fois, je me dis, ça va électrocuter le sol. Et puis, effectivement, tu trouves ce que tu veux. Hein,
Tu peux bouffer par terre, il y a tout ce qu'il faut.
Ouais.
Mais, et donc, je me suis dit, et il y a des écoles, des universités... Des quartiers parfaitement prospères. Et je regardais ça. Alors, je dis bien que ça se passe par le Maroc, mais je me dis, si ça continue, les Marocains, ils vont partir, ils vont quitter la France, ils vont retourner au Maroc. Parce que t'as vraiment l'impression... J'ai eu la même impression au Maroc aujourd'hui que j'avais eu il y a 10 ou 15 ans quand j'étais allé en Turquie, où j'avais fait une conférence là-bas. Et je m'étais dit, attendez, moi je croyais que la Turquie c'était un pays arrière, rien du tout.
C'est sublime. Enfin, c'était sublime. Moi, j'y suis allé aussi à Bodrum, je suis allé à Istanbul. Enfin, tu arrives à l'aéroport à Istanbul, c'est...
C'est Versailles. Hein.
Ouais. C'est pas Charles de Gaulle 2.
Non, c'est pas Charles de Gaulle 2. Donc vraiment, aujourd'hui, quand on est en Europe et qu'on va en Asie, quand on va un peu partout, vous vous rendez compte que... On s'est arrêté. Et eux, ils continuent.
Et le pire, c'est qu'on s'est arrêté et qu'on nous explique que le problème, justement, c'est qu'on devrait s'arrêter encore plus.
Oui, Qu'on devrait partir en marche arrière.
Qu'on devrait partir en marche arrière, que ça serait ça la solution. Et qu'est-ce qu'on en pense de faire du compost dans notre... Je dis, mais les gars, moi, je veux bien faire du compost et qu'on se mette tous à faire du macramé, mais vous vous rendez bien compte que dans ce temps-là, il y en a qui continuent d'avancer et fois 4.
Bah, par donc, exemple, allons-y. En Chine, ouais, ils ouvrent une ou deux centrales nucléaires, je crois, par mois. Et nous, on est en train d'expliquer qu'on va faire 6 dans les 10 ans qui viennent, ou j'en sais rien. Mais on n'a plus personne pour les faire. On n'a plus d'ingénieurs, on n'a plus, puisqu'on les a... Il y a encore 2 ans, M. Macron nous expliquait, Mme Borne, la bien nommée, qui m'expliquait qu'elle allait fermer la moitié des centrales. Son rôle, c'était... Elle était ministère de l'Industrie, son rôle, c'était de fermer la moitié des centrales. Et donc, quand vous avez des zozos comme ça, qui réfléchissent à 3 mois pour plaire à 3% de la population... D'ailleurs, c'est ce dont souffrent les Allemands, c'est que ça fait des années qu'ils votent pour les écolos, et ben maintenant, ils ont ce que les écolos leur avaient promis.
Bah ça, oui, sans compter qu'ils brûlent du charbon, oui. Et qu'ils sont obligés...
Bon, mais attends, tu vois pas comme ils emmerdent les paysans.
Attends, mais grâce au ciel, pour eux, on a eu la reine.
Oui.
Parce que du coup, on leur a vendu notre bonne électricité, oui. À prix coûtant. Parce que sinon, ils étaient vraiment, vraiment dans la mouise.
Absolument.
Heureusement pour eux que l'Europe les sert, les Allemands.
La France.
La France, oui, bah, du coup, l'Europe. Et que grâce à l'UE, ils ont pu récupérer notre énergie à bon compte.
Et donc, on se retrouve aujourd'hui, on se rend compte que... Vous savez ce que disait un homme comme Brzezinski, qui encore une fois était un peu le Kissinger des démocrates, hein, qui était un Polonais, qui il disait « La politique américaine doit avoir 2 idées qu'elle ne doit jamais abandonner. Maintenir l'Allemagne en suggestion et maintenir la Russie... »
En dehors de la Pologne ?
Non, en dislocation.
Ah oui.
C'était les 2 idées de Brzezinski. Et c'est pour ça qu'ils ont fait sauter le pipeline, c'est pour ça qu'ils ont fait... Donc, on se rend bien compte aujourd'hui que la politique américaine a été de détruire sciemment les économies européennes. Mais pourquoi ?
Mais ce que
c'était censé être des alliés.
Oui. Bah c'est...
Tu vois ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris le pouvoir aux États-Unis qui raisonnent en termes de gâteau fixe.
Oui.
Et qui ne voyaient pas que si l'Allemagne et la Russie se mettaient ensemble, bien sûr, ça faisait... un énorme rival, mais en même temps une croissance potentielle gigantesque, dont tout le monde aurait bénéficié. Et donc ils préfèrent, eux, rester sur leur tas d'or.
Oui, mais résultat, qu'est-ce qui va arriver ? Ils vont avoir la Chine et la Russie.
Ils vont avoir la Chine et la Russie et l'Inde. Et maintenant,
l'Inde.
Le jour où il y a la Russie et l'Inde,
je ne sais pas. Et sans les voies maritimes, c'est-à-dire en passant par les voies terrestres, je ne sais pas s'ils vont vraiment gagner au change dans leur histoire.
Regarde, du point de vue militaire... ce qui se passe en ce moment dans le golfe d'Aden, on voit très bien, c'est que, bon, il y a trois gars, qui ont, enfin, il y en a, je ne sais pas combien il y en a, quelques centaines, quelques milliers, qui marchent pieds nus et dans la poussière, mais qui ont des drones et qui empêchent tous nos bateaux de passer. Et donc, on est maintenant, tous les bateaux sont obligés de faire le tour de l'Afrique pour ne plus passer par le canal de Suez. Donc, ils ont effectivement fermé le canal de Suez. Mais... c'est 3 bergers et 30 drones, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Tu te rends compte que maintenant, des gens avec un niveau de développement extraordinairement faible comme le Yémen peuvent bloquer une des voies essentielles sans que la marine américaine ne puisse rien faire.
Tous les bateaux n'ont pas le potentiel de contourner l'Afrique.
Ben
il faut des tankers assez grands.
C'est ça. Et puis en plus, je crois que ça correspond à peu près... Le fait de tourner l'Afrique, ça correspond à peu près entre 500 000 et 1 million de barils par jour de plus, parce qu'il y a à peu près 4%.
Oui, je crois que ça doit te rajouter 3 semaines facilement.
Ça augmente de beaucoup le trafic.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est très anti-écolo, si j'ose dire. Donc, on se rend compte aujourd'hui que le pouvoir est en train de passer dans les mains, le pouvoir militaire, de groupuscules.
Alors, tu m'amènes à cette autre question qui était un petit peu l'article que tu as commis cette semaine, parce que les gens ont eu plein de questions justement sur les échanges pétroliers et le fait qu'ils soient libellés en dollars.
Ils l'étaient.
Oui, alors justement, les gens voulaient savoir dans l'article de cette semaine, quand tu dis que les 20%, les 80% dont tu parles, d'où tu tenais ces chiffres ? Est-ce que tu as dit ?
Le 20%, c'est officiel, c'est dans tous les statistiques maintenant de paiement, etc. Maintenant, il y a 20% du pétrole qui n'est plus payé en dollars, par exemple.
Alors, parce que quand
la Russie maintenant vend son pétrole
donc,
à l'Inde,
en dehors de SWIFT,
et elle le vend en roupies.
D'accord.
Donc, en roupie, bon.
Donc, parce que les gens, en général, sortent les statistiques, mais de Swift. Alors, ils disent, dans Swift...
Ah non, Swift, il y a toujours 100% de dollars. Hein.
Bah, on est d'accord.
Mais bien sûr.
Donc, il faut regarder, parce qu'ils me sortent ça en me disant, mais non, Charles dit... Je dis, bah, évidemment, vous me sortez Swift, bande de gros malins.
Bien sûr. Le Qatar et l'Arabie Saoudite vendent leur pétrole maintenant à la Chine en yuan. Mm-hmm. Ce qui est quand même gigantesque, quoi. Donc, il y a déjà le Qatar, l'Arabie Saoudite. Je crois que le Brésil aussi est passé dans sa monnaie. Mmh. Donc, il y a quand même toute une série de très grands...
BRICS, etc.,
qui commencent vraiment à... Et ce que j'essaie d'expliquer dans cet article, c'est que ça nous fait nous faire passer d'un système complètement centralisé autour du dollar à un système qui est complètement décentralisé, ce qui pour moi, en tant qu'économiste, va me créer des problèmes, parce que du coup, j'aurai plus vraiment de statistiques fiables sur les exportations ou les importations. Parce que si l'Inde se met à exporter, je sais pas, la Malaisie en roupie et que ça passe pas par Swift et que personne ne déclare ni d'un côté ni de l'autre, ou que les statistiques ne sont pas réconciliables, moi, je ne vais avoir aucune idée du développement du commerce mondial.
Or, oui, mais il y a bien quelqu'un, quelque part, qui va s'occuper de trouver ces statistiques, non de,
mais tu te rends compte, ça va, c'est le merdier que ça va être. Puis encore faut-il que ce ne soit pas un secret...
Oui, entre les
un
deux
secret
pays.
D'État. Mm-hmm. Tu n'en sais rien, donc ça... Autrefois, comme tout passait par le dollar,
s'il
y avait des paiements, tu disais c'est pour une importation. Bon. Mais aujourd'hui, comme ça va passer par... l'échange entre le dollar de Singapour et la monnaie malaisienne, ben vous allez pour trouver les exportations, ça va être bonne chance les gars, ça va être un merdier pas possible.
Du coup, oui, mais alors comment tu vas savoir où investir?
Ah ben bonne question. Justement, j'avais des tas de, mais surtout comment tu vas savoir comment contrôler?
Ben, alors, ça me pose moins de problèmes, moi, le contrôle. Je suis pas. Ben voilà. Le
donc,
contrôle me pose pas de problème.
Moi, je suis pour le merdier.
Oui, c'est toujours bien. Mais en tant qu'investisseur, tu te dis, est-ce que je mets mes pépettes? Dans quel pays? Si je peux pas voir
les chiffres. J'ai une très belle histoire comme ça. C'est le gouverneur de Hong Kong qui a créé Hong Kong, qui était un homme tout à fait remarquable, qui a créé cette espèce de liberté totale qui règne à Hong Kong, qui est tout à fait agréable. Et. Il y a un jour, un haut fonctionnaire qui vient le voir, c'était il y a une quarantaine d'années, qui dit « Monsieur le gouverneur, j'ai une très mauvaise nouvelle. » « Bah bon, dites-moi. » Et le type lui dit « Vous savez quoi, Hong Kong a une balance commerciale déficitaire. » C'est-à-dire qu'il a... « Ah bon, dit le gouverneur, je vais prendre une décision tout de suite. » « Ah oui, dit le haut fonctionnaire très intéressé. Qu'est-ce que vous allez faire ?» « Je vais interdire la publication des statistiques du commerce extérieur de Hong Kong. » Comme ça. Parce que si personne tombe... Imagine, Hong Kong avait des problèmes parce qu'ils étaient en plein boom à ce moment-là. Mais donc, automatiquement, les taux d'intérêt allaient monter. Ça allait faire baisser la demande, puis ça allait se rétablir. Donc, lui, ce que disait ce fonctionnaire, c'est « Surtout ne faisons pas des choses pour empêcher le retour à l'équilibre. » Parce qu'il dit « Si tout le monde, d'un seul coup, se met à prendre des mesures restrictives parce qu'ils ont des déficits, ça va nous entraîner dans une dépression, comme on l'a vu dans les années 30, alors qu'on aurait foutu bien la paix à tout le monde, il ne serait rien passé. » Donc, encore une fois, ça nous fait passer d'un monde extraordinairement organisé et donc fragile à un monde extraordinairement désorganisé, merdique et donc antifragile.
Pour les pays qui vont avoir une croissance et qui vont faire partie de la désorganisation désorganisée. Mais nous, on fait partie d'une espèce d'organisation désorganisée qui est notre État.
En plus, l'Europe, on a deux niveaux de...
On a deux niveaux de désorganisation organisée.
Ce qui veut dire que nous, on sera obligés de continuer à faire les trucs...
À se partager des bouts de gruyère râpés.
Voilà, mais dans lequel il y a que des trous.
Donc dans lequel il y a que des trous, de plus en plus de trous. Et eux, ils vont boomer et on ne sera pas au courant.
Et on ne sera pas au courant, mais c'est pour ça que moi je dis aux gens, j'aime bien quand l'information est très difficile à obtenir, parce que dès que l'information devient trop facile à obtenir, le gouvernement a des idées, il se crée des problèmes avec, tu vois, par exemple, on a un déficit extérieur. Ben, oui, et alors, ça peut être une bonne nouvelle, un déficit extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imagine, la France marche tellement bien que tous les étrangers veulent acheter des appartements à Paris. Donc tu vas avoir des rentrées de capitaux monstrueuses en France.
Oui, c'est sûr.
Attention, et comme la balance des paiements s'additionne à zéro, si tu as un gros plus là-haut, tu auras un gros moins là.
Oui, c'est sûr.
Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu empêches les gens d'importer? Et qu'est-ce qu'ils vont faire de l'Afrique?
Ça, c'est dans l'idée sympa où tu as des rentrées de capitaux, mais sinon, c'est simplement que tu produis pas assez, que tu es obligé
Où la balance commerciale est une très bonne nouvelle. La balance commerciale déficitaire est une très bonne nouvelle.
Problème,
la plupart des pays en développement ont des balances commerciales déficitaires.
Bien sûr.
Puisqu'ils développent plus vite que les autres.
Le problème chez nous, c'est que c'est un peu parce qu'on produit plus rien à cause de notre industrie à la ramasse et qu'on est obligé de tout importer. Et que les gens.
Mais si on n'avait pas un faux taux de change. À ce moment-là, le taux de change s'écroulerait et on se retrouverait automatiquement en train de faire des choses à nouveau.
Oui,
tu vois ce que je veux dire, c'est les blocages qu'on
a fait. C'est le blocage du taux de change qui rend
cette situation inévitable. Donc encore une fois, on va passer d'un monde. Moi, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer avec les deux Canadiens auxquels tu peux penser. Je leur disais, le vrai problème, c'est les économistes qui pensent qu'ils peuvent organiser mieux le monde que la main invisible d'Adam Smith, quoi. Et donc, on se retrouve à la fin avec le grand coup de pied dans le derrière de Joseph Staline, comme toujours. Donc, j'appelle de tous mes voeux le merdier.
Non seulement ça, mais en plus, si tu veux, le vrai problème de ces économistes et des gens qui réfléchissent en citant Adam Smith, c'est qu'ils s'imaginent en réalité que, encore une fois, que l'économie serait un gâteau fixe et que sans réfléchir.
Qu'ils peuvent contrôler, qu'ils vont faire monter celle-ci, qu'ils vont faire baisser celui-là.
Évidemment,
c'est la boîte à outre de l'autre andouille.
C'est la boîte à outre du blond. l'idée qu'ils pourraient le contrôler, mais au-delà de ça, que ce serait aussi un gâteau fixe.
Oui.
C'est-à-dire en s'imaginant qu'il n'y aurait jamais de croissance. Or, encore une fois, nous vivons beaucoup mieux qu'en 1870.
C'est surtout les Malthusiens qui sont comme ça. Non seulement il est fixe, mais enfin, il n'y en a pas assez pour tout le monde.
En plus, il n'y en aura pas assez. C'est l'histoire de c'était dégueulasse, il n'y en a pas eu assez pour tout le monde. C'est bon.
Des Marx Brothers.
Des Marx Brothers. Donc, alors attends, pour revenir, j'avais une autre question de Gabriel qui te demandait, dans l'interview de Stéphane Bureau, vous expliquez que l'immobilier sera la prochaine étape de la destruction de notre liberté. Pourriez-vous revenir sur le sujet et pourquoi l'immobilier n'est plus pour toi un actif sûr dans les années à venir? Ça s'insère dans le développement.
Il y a une réponse qui a été donnée hier par un sénateur communiste.
Oui, qui a voulu faire une pétition.
Pour
réquisitionner les logements vacants.
Les logements vacants. Et le droit de propriété? Donc tu me diras que pour un communiste, qu'il n'est pas une passion pour le droit de propriété, je comprends bien. Mais toi, tu es là, tu te dis, j'ai gagné beaucoup d'argent sur l'immobilier parce que le gouvernement a tout fait pour qu'on empêche du nouvel immobilier de monter. Tu sais, c'est comme quand il y avait eu les Jeux Olympiques à Méribel, je me souviens. Ils avaient bloqué la construction de la chalet ou je sais pas quoi. Et du coup, le prix des chalets montait comme des fusées de ceux qui existaient, quoi. Donc, comme la plupart des gens qui font les lois ont des appartements, ils vont bloquer la construction de nouveaux appartements pour que leur appartement monte beaucoup. Et une fois qu'il sera monté beaucoup, si tu veux, il y aura des gars qui seront élus pour aller prendre cette plus-value injustifiée qui a été créée.
Cela dit, dans Paris, petite couronne, intérieur du périph, je pense pas qu'on puisse développer le parc immobilier tellement plus que ça. Je veux dire, il y a un moment. Bon, alors, imaginons, tu réquisitionnes le bois de Boulogne pour faire des logements.
Non, tu fais pas des logements comme ça. Mais ce que je sais pas, ce que tu peux faire à Paris, c'est peut-être pas nécessaire. Mais ce que tu pourrais faire, c'est
Parce qu'il y a quand même déjà une densité urbaine qui est.
Tu fais un train rapide qui va de la porte de la gare du Nord aux plaines Picardes, là, qui met 20 minutes, et puis là, tu fais des tas de développement.
On aurait dû commencer dans les années 80, parce qu'on a effectivement, on s'est tablé sur le RER, et que ce soit les trois, ABC, ce sont des catastrophes. Et on le sait déjà en l'état.
Mais aujourd'hui, regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des tas de gens qui vivent à Orléans ou à Tours, et qui viennent travailler tous les jours à Paris.
Oui, alors ça amène justement ce que je voulais dire. Moi, j'ai vu ça pendant le confinement, c'est-à-dire des gens qui finalement ont dit, combat avec le télétravail et ainsi de suite. Je vais vendre le grand appartement de Paris. Je me mets à Tours et je viens deux fois par semaine à Paris où j'achète un petit studio. Donc le petit studio en question, effectivement, n'est pas occupé pendant six jours.
On va
le réquisitionner pour. Je dis mais c'est dégueulasse. C'est des gens qui ont choisi. Effectivement,
mais d'abord, il n'y a pas de raison de réquisitionner quoi que ce soit. On n'est pas en temps de guerre. Le marché existe, la liberté existe. Le sénateur socialiste, s'il veut réquisitionner quelque chose, qu'il aille en Corée du Nord.
De toute façon, le socialisme n'est jamais
clair. Et vivre en Corée du Nord, ça sera le pied.
Oui,
mais surtout
ça.
Qu'il parte en Corée du Nord. Parce que là, donc, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on a tout fait pour que l'essentiel de la richesse d'un pays soit dans de l'immobilier existant et non pas dans de l'immobilier futur, et que tu as des gens qui pensent que le droit de propriété n'existe pas, ne t'imagine pas que ce pot, tu as en quelque sorte un pot d'or dans un bidonville. Eh bien, qu'est-ce qui va arriver à ton bidonville? On va te le piquer.
Non, mais le vrai problème, j'ai pas l'expression en français, mais t'es un sitting duck.
Oui, c'est un sitting duck.
Tu te retrouves là, dans cette économie où, effectivement, qui va aller vers une décroissance de nos pays européens.
Parce qu'on fait tout pour ça.
On fait tout pour ça. On empêche les entrepreneurs qui n'ont plus de marge brute d'autofinancement. Donc, je ne vois pas dans une Europe qui nous rend encore plus étouffés, une énergie qui est capturée par l'arène. Donc, je ne vois pas un avenir qui serait autre que la spoliation et la captation par des communistes qui ne font que monter. Alors, on peut les appeler socialistes, hein, c'est jamais que l'étape une de la fusée, hein, parce que tout socialiste devient communiste à un
et
moment ou un autre.
Et ça se termine toujours en camp de concentration.
Et ça se termine toujours avec la captation de vos droits de propriété, la fin des droits, comme on a pu le voir aussi dans cette répétition généralisée que fut le Covid, où très peu de gens se sont élevés pour nos libertés individuelles.
Pas le Conseil d'État.
Surtout pas le Conseil d'État, mais de toute façon personne dans les administratifs. Qui ne sont pas au service du peuple, comme on l'a vu avec M. Moscovici, qui sont là pour le temps politique du gouvernement, ce qui est quand même incroyable, alors qu'encore une fois, ce devrait être des serviteurs de l'État.
Donc ce qu'on voit avec Moscovici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit donc que le Conseil d'État, la Cour des comptes, etc., prennent leurs ordres auprès de la présidente de la République.
Du gouvernement.
Et si la présidente de la République font des choses qui sont complètement illégales, comme par exemple l'interdiction de rassemblement ou de je sais pas quoi, eh bien, ils seront d'accord.
Mais bien évidemment.
Et donc, si j'ose dire, on se retrouve dans le cadre des...
Donc les contre-pouvoirs qui étaient normalement montés
Papon,
pour la cinquième...
De Papon qui envoyait des juifs se faire tuer là-bas. Ça, on est dans la même chose. C'est-à-dire, à partir du moment où le gouvernement a décidé, ben moi, je... Bon, on est c'est l'esprit d'Eichmann. C'est-à-dire, j'obéis. Eh bien, dans la génération de mes parents et tout, et de mes grands-parents, la noblesse, c'était de désobéir à des ordres qui étaient indignes.
Ben, c'est Saint-Augustin.
Ben voilà.
Quand tu vois un ordre tyrannique, tu dois t'opposer au tyran. Alors évidemment, toute la difficulté est de définir la tyrannie.
Mais tu peux le faire qu'au niveau individuel.
Mais tu peux le faire. Mais quand toi, ça va contre ta morale,
Et
contre ce que tu penses et la justice...
Tu dis non.
Tu dis non. Et tu dis, je ne servirai pas.
C'est
pour voir unique.
Non,
c'est tout.
C'est tout.
Mais
là, on est en train d'aller vers une voie unique qui est de vous... On vous a forcé à acheter l'immobilier, maintenant on va vous le piquer. C'est honteux.
On est dans un vrai problème. Alors, tu as un autre internaute qui te demande ce que tu penses de la Turquie et est-ce que tu peux attendre pour toi une remontée de la lire turque?
Alors, la Turquie, c'est un cas très intéressant parce que je suis en train d'essayer de beaucoup réfléchir. Là, je publie des papiers dans ma vraie société là, sur la nature de la monnaie, etc., pour essayer de comprendre ce que c'est que cette bête étrange. Mais on va pas. Il faudra peut-être qu'un jour on fasse une émission là-dessus, mais ce n'est pas de la tarte. Donc, la Turquie, c'est un pays très étrange. Parce que, d'abord, imaginons que nous ayons raison sur cet immense développement de l'océan Indien, ça va être un des énormes bénéficiaires. Parce qu'ils ont cette chance extraordinaire d'avoir des universités, d'avoir une industrie, etc. Et je vais être qui ne soit ni américaine ni européenne. Mmh. Ils ont des vrais industriels, des vrais ingénieurs, et tout ça. Et ils font partie, presque naturellement, des briques. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, bien sûr.
Donc, ils vont être reçus partout avec... Donc, la livre turque, elle ne va pas remonter, mais je serai optimiste, très optimiste sur les actions turques aussi,
que c'est
pas
que,
les banques. Hein.
C'est ce que t'explique toujours la notion d'operating system.
Voilà, l'operating
c'est-à-dire
system.
C'est-à-dire que tu peux avoir une
Ils
monnaie...
ont un operating system qui est pété, mais une économie qui marche bien en dessous.
Voilà. Donc, la monnaie est pétée peut-être parce qu'elle était mal montée, surévaluée, des emprunts,
etc. Pour raison,
enfin, voilà.
Les banques, en fait.
Mais...
Il faut acheter de l'économie réelle en Turquie. C'est pour ça qu'acheter peut-être, je sais pas... Une jolie maison au bord de la Méditerranée en Turquie, c'est peut-être pas complètement idiot, quoi.
Des vignes.
Des vignes, des trucs comme ça, c'est pas mal. Il y a des tas de choses en Turquie. C'est, d'abord, c'est un très grand pays.
Et ensuite, ils doivent avoir des mines.
Ah oui, ils ont sûrement des mines. Ils sont, mais je crois que je me demande si c'est pas le plus gros marché de l'or aujourd'hui au monde. Donc,
d'ailleurs, à ce propos, les gens posent la question, pourquoi les actions minières d'or ont tellement baissé alors que l'or est monté ? Pourquoi les actions minières ont baissé, voilà.
Alors, c'est parce que à cause de la hausse du prix de l'énergie qui a eu lieu et la cause et à cause des taux d'intérêt, ben, leurs coûts ont augmenté dans des proportions monstrueuses. J'ai toujours dit aux gens attention, les mines d'or c'est pas
oui,
de l'or.
Oui, il y a
hein.
un point de rentabilité, je ne sais plus à combien c'était en 6,
mais
enfin il y avait.
Mais voilà. Il est beaucoup monté, c'est-à-dire que.
Je me souviens, tu avais tiré des graphiques justement sur la rentabilité d'extraction.
D'extraction et ben, là voilà. Ça le coûte. Et il y a une autre raison, c'est que. Aussi curieux que ça paraisse, on trouve plus d'or. C'est-à-dire que les mines, maintenant, autrefois, il fallait, tu cassais, je ne sais plus quoi, 100 kilos, tu avais un gramme, ou j'en sais rien. Maintenant, c'est plutôt 10 000 kilos qu'il faut casser pour
alors,
avoir un gramme.
Alors, on va arriver dans un système fixe, un peu comme le bitcoin,
exactement.
Alors.
Exactement. L'or est en train de devenir une espèce de bitcoin fixe, oui.
Donc, en réalité...
Il y a un phénomène de rareté qui se passe sur l'or.
Et qui va peut-être faire comme bitcoin...
Un jour, il va péter la hausse.
Ouais. Ah, c'est intéressant.
Non, c'est très marrant.
Mais alors, est-ce que dans ces cas-là, pour avoir plus de fluidité et retrouver une volatilité, on ne se servira pas de l'argent, de l'uranium, de j'en sais rien ?
L'uranium, c'est très difficile parce qu'en plus...
Non, mais en bourse, on ne va pas se balader avec. Tenez
J'ai un petit kilo d'uranium. Ça va vous donner des maladies de poumon, mais ce n'est pas grave.
Oui, voilà. C'est naturel, écoutez, franchement.
C'est naturel. C'est comme le gaz naturel, ça m'a toujours fait rigoler, ouais. Ça. C'est bah, naturel, mes fesses, c'est des hydrocarbures comme tout le reste. Et le type qui a inventé le nom de gaz naturel, il a réussi à un coup de pub incroyable. Parce que tout le monde dit « Ah oui, le gaz, c'est bien. » Quelle est la différence avec l'essence ? Aucune. « Ah mais c'est bien, c'est beaucoup mieux. »
Oui, mais c'est naturel, monsieur.
C'est naturel. On aurait dû appeler l'essence naturelle.
Ouais.
Mais bon, alors,
la République
à ta question.
Démocratique. Ouais.
Voilà, je reviens à ta question. Oui, il peut y avoir ça, ça peut faire monter l'argent, mais surtout... s'il y a vraiment un effet, mettons si les systèmes monétaires de l'Occident commencent à se viander, ça risque de faire un effet d'entonnoir sur l'or, il risque de monter beaucoup plus que ce à quoi les gens s'attendent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un peu comme le Bitcoin, de temps en temps, d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, le Bitcoin il prend 35%,
oui.
Parce que y a des gars qui ont...
Bon, enfin, ça, c'est la volatilité du Bitcoin. Il prend 35, il perd 40, il reprend 25. Enfin, il y a une volatilité incroyable.
Et donc, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il est très probable que le cours de l'or va devenir beaucoup plus volatile. Pour l'instant, il est régulé par les banques centrales. Mais le jour où les banques centrales diront « Écoutez, moi, je n'ai rien à foutre, je garde mon or et puis je ne m'intéresse plus à son cours. »
Parce que
pour l'instant, c'est la Banque Centrale Américaine et la Banque Centrale Anglaise qui contrôlent le cours de l'or pour l'empêcher de monter trop.
Je crois que la Chine le faisait aussi.
Un
pour essayer
d'en prendre le plus possible.
Ouais, le renminbi, enfin le yuan.
Mais d'ailleurs, la rentabilité des obligations chinoises dont j'ai souvent parlé ici depuis 2-3 ans, 4-5 ans, c'est à peu près celle de l'or. Quoi. Donc ils ont bien bloqué leur...
C'est ça.
Donc, moi, l'or, ça me paraît évident... Mais j'ai vu, je sais pas du tout sûr, je sais pas si c'est sûr ce que je vais te dire, mais j'ai lu un papier disant que Musk était en train donc d'envoyer ses satellites partout. Puis ensuite, tu auras ton téléphone avec un numéro de Musk. Tu sais que tu pourras marcher partout dans le monde. Tu n'auras plus besoin de passer par SFR.
Ouais.
Tu passeras directement avec les satellites comme ça. Tu auras un récepteur sur ton téléphone et hop, tu téléphoneras. Et ça sera payable dans une monnaie que Musk va inventer. Un nouveau bitcoin. Alors là, on est mal parti, les mecs. Si Musk lance un bitcoin, ça va souffler.
Oh là là. Eh ben. Écoute, je crois qu'on a fait un petit tour. Alors, je ne sais pas, la semaine prochaine, peut-être qu'on reprendra un petit peu des questions parce
oui,
que j'en avais plus. Enfin, on verra. Mais je pense que ça a intéressé tout le monde qu'on parle de la Grande-Bretagne parce que c'est un sujet qui devient
oui,
quand même
de façon
récurrente.
C'était pas tellement la Grande-Bretagne, c'était de la perception des élites françaises sur quels sont les problèmes d'aujourd'hui.
Oui.
Qu'un homme comme Bavares pense qu'un grand intellectuel comme lui doit se consacrer à ce qui se passe en Angleterre, alors que la France est dans une mer de noir, l'Allemagne est dans une mer de noir, l'Europe est dans une mer de noir, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Qu'est-ce que sont des priorités? Parce qu'ils ont cassé le vase de Soissons?
C'est pas moi.
C'est pas lui, monsieur. Si vous dites que c'est pas lui, je le connais, c'est pas lui.
Non, mais bon, ou alors c'est un article de commande où il fallait dire du mal du Brexit, tu sais. C'est...
Oui, mais un homme comme Bavares, jamais Raymond Aron n'aura accepté un article de commande, c'est ce que je me suis dit aussi. Mais je peux pas croire qu'il a accepté un article de commande.
Ou alors, c'est pas lui, il a mis son... Je sais pas, écoute. Aussi, j'ai été...
Moi, j'ai été stupéfait d'abord par le thème, etc., et ensuite par la pauvreté de l'article. Je me suis dit, c'était fait par un étudiant de première année en sociologie, quoi. C'est pas possible. Mais j'en sais rien.
Écoute, on n'aura pas la réponse à cette question, mais on espère vous avoir démontré, en tout cas, que les faits de cet article étaient faux.
J'ai présupposé que l'Angleterre allait plus mal que les autres étaient faux.
Et que, de toute façon, il n'était pas chiffré, donc tout était... Tout était d'une invective, du niveau du discours d'un politique, parce que quand on fait un article de fond, si c'était même un tribunal devant lequel il fallait mettre des faits, rien n'était sourcé, il n'y avait pas de pièces, voilà, donc, écoutez, vous repasserez à la session septembre, hein,
c'est ça. Ce qui n'a pas dû lui arriver souvent.
Voilà, c'est tout. Vous passerez l'été à plancher dessus. C'est pas grave, ça arrive à des gens très bien.
Voilà,
écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Encore une fois, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2024. Tiens, j'ai vu un truc drôle parce que tu sais, c'était l'épiphanie dimanche. Oui. Gérard Larcher, le président du Sénat, a une technique pour toujours trouver la fève. Il faut manger toute la galette.
Depuis le temps qu'il le fait... J'ai été invité deux ou trois fois à bouffer au Sénat, ben je vous assure que le restaurant est bon.
Ah bah, je veux bien croire.
Et les vins sont superbes, et c'est bien meilleur qu'à la Chambre des communes ou au Lords à Londres.
Ah bah oui, tu m'étonnes.
Ah oui, ça, mais il n'y a pas photo.
Il
n'y
a pas photo.
Photo.
Voilà, n'oubliez pas de mettre des pouces et en parler à vos amis. On va bientôt arriver à 300 000, donc parlez-en à vos amis.
On va arriver à 300 000.
Allez, voilà, on
et
y croit.
Et le bouquin se vend bien.
Et le bouquin se vend bien, donc merci beaucoup de l'avoir acheté. On vous retrouve très vite, à la semaine prochaine.
Et on est le numéro, le plus laissé, le plus vendu en France, et personne n'en parle.
Voilà, c'est l'omerta.
On nous en veut.
Allez, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.